France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. On savait combien le pari du Premier ministre Sébastien Lecornu de parvenir à faire adopter un budget pour 2026 avant la fin de l'année semblait hasardeux. Preuve en a été faite ce matin même. Les 14 membres de la commission mixte paritaire ont acté l'impossibilité de trouver un compromis. Tandis que les agriculteurs sont reçus en ce moment même à Matignon, on tâchera de comprendre avec notre invité ce que représente l'abattage d'un troupeau pour des éleveurs de bovins. L'actualité à l'étranger, c'est notamment le discours annuel de Vladimir Poutine, le maître du Kremlin, qui met en garde ce matin contre de lourdes conséquences en cas de recours aux actifs russes pour financer l'Ukraine. Il se trouve qu'hier, les Européens n'ont pas réussi justement à s'entendre sur l'utilisation de ces avoirs gelés. Nous serons à Moscou et à Bruxelles. Et puis on se rendra à Phoenix, dans l'Arizona, sur les lieux d'une immense foire de la droite conservatrice américaine. Les Français auront-ils un budget à Noël? Une réunion décisive aujourd'hui entre sénateurs et députés devait en décider, sauf que le conclave de la commission mixte paritaire avait à peine débuté que rapidement. Les parlementaires n'ont pu que constater l'impossibilité de trouver un accord entre les uns qui veulent réduire les dépenses et les autres qui réclament au contraire davantage de recettes. Nicolas Ballut, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Assemblée. Alors en réalité, l'épisode de ce matin ne constitue pas franchement une surprise. Avant même l'ouverture de cette commission, Nicolas, on savait que son issue s'annonçait a priori très mal engagée.
Oui, à tel point que les parlementaires ont acté l'échec de la commission mixte paritaire au bout d'une vingtaine de minutes seulement. Ces dernières heures, ce qui tenait du pari difficile est devenu impossible. Le discours dominant, c'était celui de l'intransigeance de la majorité sénatoriale et de son chef, Bruno Retailleau, demandant plus d'économies. Le gouvernement avait assez fait de concessions au PS. À la sortie de la CMP, tout à l'heure, l'heure était plutôt au règlement de compte. C'est un jour sombre pour la démocratie, affirme de son côté le socialiste Philippe Brun, qui met en cause, je cite, la responsabilité pleine et entière de la majorité sénatoriale. La défense du sénateur LR, Jean-François Husson, il met en cause le gouvernement.
Ce qui a manqué aujourd'hui, c'est d'avoir un point d'atterrissage éclairé par le gouvernement. Parce que je n'ai jamais mis aucune ligne rouge. L'intérêt de la France passe au-delà des intérêts particuliers, politiques, mesquins.
Nous avions travaillé au compromis, dit-il. Quant au député RN Jean-Philippe Tanguy, la seule solution, c'est la dissolution.
On a encore perdu 3 mois. S'il y a 3 mois, les socialistes avaient censuré, ou les républicains d'ailleurs, avaient censuré ce gouvernement, nous aurions fait une dissolution. La seule solution, c'est le retour aux urnes et c'est l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national.
Alors s'agissant peut-être de la suite, Nicolas, c'est donc le Conseil d'État qui va désormais être saisi d'un projet de loi dit spécial qui permettra de prolonger temporairement le budget 2025 pour le début de l'année prochaine, c'est bien cela ?
Oui, il y avait encore plusieurs possibilités théoriques. Ordonnance, article 49.3, ce sera la loi spéciale qui permet de lever les impôts sur la base du budget 2025 en attendant la suite des discussions au Parlement au début de l'année prochaine. Selon la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, elle coûtera 12 millions d'euros à l'État. Le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, demande au gouvernement de ne pas dramatiser la situation.
J'entends des petites musiques, et pas seulement de la part du gouvernement, sur le côté dramatique de cette loi spéciale. Les services votés de la loi spéciale, par exemple, permettent 5 milliards d'économies sur le budget de l'État. Donc on est loin, là, on le voit, des déficits accrus par une loi spéciale. C'est pas le drame annoncé, c'est pas la situation catastrophique annoncée.
Le Conseil d'État va être saisi. La loi devrait être examinée par les deux chambres en début de semaine prochaine. Et Sébastien Lecornu, le Premier ministre, va réunir les responsables politiques lundi.
Merci Nicolas Ballut avec Alexandra Bergel pour les moyens techniques. Le musée du Louvre a pu rouvrir normalement ce matin après la fin de la grève votée par les agents mobilisés depuis lundi dernier pour de meilleures conditions de travail.
Midi passé de 34 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est un rendez-vous toujours très attendu en Russie, le spectacle de l'année mettant en scène le président Vladimir Poutine lors d'une vaste conférence de presse ou plutôt de propagande à base de questions-réponses diffusées en direct à la télévision, censé dresser le bilan de l'année écoulée. Alors après 25 années passées à diriger le pays, c'est peu dire que l'autocrate du Kremlin est rodé à l'exercice, d'autant que comme les années précédentes, il se sait évidemment très attendu sur le sujet prioritaire, la guerre en Ukraine qui en février prochain entrera dans sa 5e année consécutive. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou sur le conflit. Vladimir Poutine se dit prêt toujours à négocier, mais tout en faisant valoir son avantage sur le champ de bataille. Et au fond, Sylvain, il reste totalement inflexible sur ses ambitions, en particulier territoriales.
Oui, alors qu'en général, le président russe parle en premier des problèmes intérieurs lors de cette conférence de presse, des problèmes liés à la vie des Russes, Vladimir Poutine, là, a d'entrée de jeu donné le ton cette année, parlant de la guerre en Ukraine, recevant un soldat, héros du front, à sa table et dressant un bilan détaillé de la situation sur le front. « Nos forces progressent sur toute la ligne de contact », affirme-t-il, « et nous aurons encore des succès d'ici la fin de l'année ». Bref, la paix n'est pas dans sa ligne de mire. Le président russe, droit dans ses bottes, même lorsqu'il est interrogé sur les victimes des bombardements russes en Ukraine.
Nous ne nous considérons pas responsables de la mort de civils, car ce n'est pas nous qui avons déclenché cette guerre. Cette guerre a été déclenchée après un coup d'État armé anticonstitutionnel en Ukraine en 2014, suivi d'un début d'hostilité par les dirigeants du régime de Kiev contre leurs propres citoyens du sud-est de l'Ukraine. Et après qu'on nous ait menti et que les accords de Minsk n'aient pas été respectés, nous avons été obligés d'utiliser les forces armées pour mettre fin à cette guerre qui avait été déclenchée par le régime de Kiev avec le soutien des pays occidentaux.
Selon une rhétorique bien rodée, le chef du Kremlin a également affirmé que la Russie était ouverte aux discussions et même aux concessions, mais sans préciser lesquelles, et en ajoutant que la balle était désormais dans le camp des Ukrainiens et des Européens pour mettre fin à cette guerre.
Merci Sylvain Tronchet à Moscou. Alors hier, faute d'être parvenu à s'entendre sur un recours aux avoirs russes gelés, les dirigeants européens réunis se sont finalement ralliés à un emprunt commun classique pour financer à hauteur de 90 milliards d'euros l'effort de guerre de l'Ukraine au cours des deux prochaines années. Une victoire douce, amère pour les alliés de Kiev qui espéraient sans doute pouvoir offrir un dernier sommet harmonieux pour clore cette année. À l'évidence, c'est raté. Virginie Pironon, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Bruxelles, il faut encore préciser que cette opération ne se fera même qu'à 24 et non pas 27, puisque Virginie, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ont été exemptées.
Exactement, c'est en réalité un accord à 24 qui a été obtenu cette nuit. Alors certes, personne n'a émis de veto, le principe d'un prêt a bien été validé à l'unanimité, mais vous l'avez dit Thomas, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque se sont désolidarisés de l'emprunt. Traduction, ces pays ne participeront pas tout simplement au remboursement du prêt. Hier soir, les chefs d'État et de gouvernement ont tenté de préserver l'apparence de l'unité. Cela ne change pas la donne, affirme Emmanuel Macron. Ce qui aurait été préoccupant, dit le président français, c'est si un pays avait effectivement voulu bloquer la décision. Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a fait hier le déplacement à Bruxelles pour convaincre justement les 27 d'utiliser ses avoirs russes, une décision juste selon lui, c'est malgré tout qu'il a évité le pire. Dès le printemps, l'Ukraine aurait été à court de liquidités. Reste que pour le moment, même si l'Union européenne dit continuer à travailler sur le sujet, les actifs russes immobilisés apparaissent toujours comme intouchables. Kiev, aujourd'hui, ne peut pas se permettre de critiquer. De la monnaie sonnante et trébuchante, certes, mais l'Ukraine n'a pas reçu de la part des 27 la réponse politique qu'elle attendait.
Merci Virginie Pironon en direct de Bruxelles avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques.
Toujours dans la capitale belge et tandis que les dirigeants des 27 s'écharpaient donc hier sur le dossier ukrainien, la colère paysanne s'est à nouveau invitée à travers un cortège de tracteurs et de lancers de pommes de terre.
De quoi donner un peu plus encore de grain à moudre à tous ceux qui se gaussent de la faiblesse du vieux continent et pointent son manque de crédibilité. En l'occurrence, c'est sous la pression de la France mais aussi grâce au soutien clé de l'Italie, la signature de l'accord de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur a été reporté à janvier, un répit ou plutôt un sursis fragile qui l'expose donc à une probable nouvelle flambée de colère agricole dès le mois de prochain. Alors s'agissant du secteur agricole, nombreux sont ceux à redouter qu'à la faveur de ce traité de libre-échange, certains produits comme le bœuf, le sucre, le riz, le miel ou bien encore le soja sud-américain n'arrivent en Europe débarrassés de barrières douanière. Sauf que le secteur agricole n'est pas le seul concerné en réalité. C'est aussi le cas par exemple du secteur minier et de ses métaux et autres minéraux dits critiques. Or dans ce domaine, Valentin Gris, eh bien l'Europe parle cette fois-ci d'une seule et même voix.
Depuis l'année dernière, l'Union européenne s'est dotée d'un règlement sur les matières premières critiques qui doit la rendre plus autonome dans le domaine minier. À l'heure actuelle, nous ne produisons ni ne transformons les métaux critiques essentiels à la transition écologique pour approvisionner les batteries automobiles, les panneaux solaires, les éoliennes ou encore le secteur nucléaire. Parmi les directives, plus d'extraction et plus de recyclage européen, mais aussi une diversification des approvisionnements, car la Chine contrôle nos besoins dans beaucoup de métaux, des terres rares, du magnésium, du gallium par exemple, et a mis en place ces derniers mois des contrôles stricts sur les exportations, une manière de mettre sous pression l'industrie européenne. Et c'est ici que l'accord avec le Mercosur devient précieux. L'Amérique latine dispose en effet d'un sous-sol riche. Le Brésil produit par exemple 92% de notre consommation de niobium, un métal utilisé dans certaines batteries, ainsi que du nickel, du silicium ou du vanadium en abondance. Les industriels européens ne s'y sont pas trompés. Le groupe minier français Eramet a ouvert une usine de lithium début 2025 en Argentine, un autre pays richement doté. Et si les plus gros exportateurs de la région restent le Chili et le Pérou, notamment pour le cuivre, un métal menacé de pénurie, reste que le traité avec le Mercosur doit aussi lever des barrières douanières sur des métaux dont la Commission et les États membres sont désormais convaincus du caractère essentiel et par là même soulager, même de quelques pourcents, notre dépendance à l'égard de Pékin.
On évoquait tout à l'heure la fronde paysanne à l'échelle de l'Europe autour du traité controversé du Mercosur. Et que dire à présent du bourbier agricole en France alors qu'une épizootie de dermatose nodulaire contagieuse frappe des bovins? Les éleveurs restent toujours mobilisés contre les abattages systématiques des troupeaux touchés par la maladie, même si certains blocages ont certes été levés. Plusieurs axes routiers restent coupé à la circulation, notamment dans le sud-ouest et en particulier l'autoroute A64. D'où l'appel lancé ce matin par la ministre Annie Genevard. Il y a le temps de la manifestation, mais il y a aussi le temps, dit-elle, de la trêve de Noël. De son côté, le Premier ministre Sébastien Lecornu reçoit séparément depuis ce matin à Matignon les représentants des quatre principales organisations agricole. Et pour évoquer donc cette gestion par les autorités de la fameuse dermatose nodulaire contagieuse, invité à présent de la rédaction, Jules Hermelin, éleveur de bovins dans le Finistère, par ailleurs docteur en anthropologie, auteur notamment d'une thèse sur le rapport humain-animal dans le contexte justement de l'élevage agricole. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Je précise également que vous êtes syndiqué à la Confédération Paysanne. Alors, depuis l'apparition de cet épizootie en France, c'était l'été dernier, une mesure en particulier est au cœur des débats, c'est l'abattage généralisé des troupeaux. Dès le premier cas repéré, les vétérinaires, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de cette solution pour empêcher, bien sûr, la maladie de circuler. Puis les éleveurs sont davantage divisés. Une partie y voit un sacrifice nécessaire, quand d'autres dénoncent une mesure trop radical. Et pour tenter de mieux comprendre donc ce débat, il faut se pencher effectivement sur ce lien particulier que les éleveurs entretiennent avec leurs bêtes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce lien émotionnel, tangible, que vous avez d'ailleurs documenté?
Toute une partie de mon travail de thèse, et c'est ce que je vis aussi aujourd'hui dans le métier, hein, c'était de montrer que avant tout, il y a un rapport sensible aux animaux, qui est fondateur dans les motivations, dans les raisons pour lesquelles les gens s'engagent dans ce métier, quoi. Et quand je parle de rapport sensible, en fait, il y a deux dimensions dans ce rapport sensible. C'est à la fois la dimension sensorielle, c'est par nos sens, vu que les vaches ne nous parlent pas, elles nous parlent avec leur corps, elles nous disent avec leurs odeurs, avec leurs sons et tout, etc. Donc c'est par l'empathie, dans ce travers de ce rapport sensoriel, qu'on essaie de comprendre nos animaux. Et puis l'autre dimension, elle est affective. Alors affective, c'est évidemment le rapport qu'on va avoir avec un animal en particulier, cette vache qui vient chercher des gratouilles, etc. Bon, ça c'est une image qu'on peut toutes et tous comprendre. Mais il y a autre chose, c'est qu'en fait les affects communs humains bovins, les affects de joie communs entre les vaches et leurs éleveurs, elles sont des guides pour l'action. C'est-à-dire que quand on va les voir heureuses d'aller au champ, quand on va les voir heureuses d'accomplir quelque chose qu'on leur a demandé de faire, c'est-à-dire de passer la tête au travers des barrières pour manger du grain qu'on leur a distribué, tout ça, en fait, ça nous dit qu'on travaille bien et ça fait partie de ce rapport sensible.
Monsieur Hermelin, on a parfois du mal à concevoir, malgré tout, que des agriculteurs qui ont vocation, par leur métier, à conduire leurs bêtes à l'abattoir, expriment une douleur sincère face à l'abattage sanitaire d'un troupeau. Comment est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre cela?
En fait, le deuil, la mort animale, elle fait partie du métier. Elle fait partie du métier et tous les éleveurs, toutes les éleveuses le savent et ils le maîtrisent, en fait, parce que la mort animale, elle se fait pas d'un coup brutalement sur la totalité du troupeau, elle se fait progressivement tout au fil de l'année. On a le temps de s'y préparer, des fois on négocie avec nous-mêmes. Donc j'ai vu des éleveurs pendant mon travail de thèse, par exemple, trouver 10 000 raisons pour pas envoyer cette vache qui, pour des raisons de santé, aurait dû partir à l'abattoir, et puis on va pouvoir négocier avec soi-même, etc. Donc il y a un travail de deuil véritable qui peut être fait et sur lequel on a la main. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est que la mort animale, en fait, elle fait partie aussi du travail de sélection. C'est-à-dire que c'est en choisissant les animaux qui partent à l'abattoir qu'on sélectionne et qu'on façonne ce troupeau dont j'ai essayé d'expliquer dans la thèse que c'était avant tout une communauté interspécifique, interespèce, de sens et d'affect, ce que je vous disais un peu plus tôt, quoi. Voilà, donc la mort animale, oui, elle fait partie du métier, mais quand on abat totalement un troupeau, on détruit une communauté de sens et d'affect. Je suis obligé un peu d'aller vite là avec le temps qui m'a imparti, mais c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Et puis on nie complètement le rapport à la mort qui fait partie du métier, quoi. C'est-à-dire cette capacité de sélectionner, d'avoir le temps de sélectionner, etc.
Et effectivement, ce qui disparaît donc avec un abattage total. Ça n'est pas seulement l'addition d'un certain nombre d'individus indemnisés, hein, entre 2000 et 2500 euros par tête, mais c'est aussi un patrimoine génétique, c'est-à-dire le fruit d'un travail au long cours d'habituation du troupeau à l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
C'est un patrimoine génétique et je crois que c'est un patrimoine social aussi, si on peut dire qu'il y a des relations sociales humaines bovines. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sélectionne, donc quand on envoie une partie du troupeau à l'abattoir tout au fil de notre carrière, des générations qui succèdent, on va sélectionner des animaux qui savent valoriser les prairies de notre ferme, qui savent assimiler notre fourrage, qui produisent le lait qu'il faut pour répondre à l'AOP ou à nos propres critères de production. Donc ça, c'est toute la partie génétique, épigénétique, hein, transmission des caractères acquis. Et puis il y a une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a un troupeau qui connaît la ferme, qui connaît les règles, qui connaît le fonctionnement et qui du coup est habitué à évoluer dans un certain environnement social. Et tout ça à reconstruire, c'est très très long.
Est-ce que toutes ces dimensions que vous venez d'évoquer rapidement ici pourraient être, selon vous, peut-être aussi mieux prises en compte dans la définition des politiques sanitaires françaises ou que l'on a souvent tendance à qui on reproche une rationalité froide qui ne prendrait pas en compte l'expérience concrète des éleveurs?
En fait, je pense que c'est plus largement la question des politiques agricoles en général qui ne pense en termes d'unité de production, en termes de données agrégées, de tonnage, et d'un côté c'est nécessaire, mais de l'autre en fait ce qui se passe c'est que ça nie le rapport sensible au vivant, là je parle de manière beaucoup plus globale, des agriculteurs et des agricultrices, et ce rapport sensible au vivant il n'est pas irrationnel, il est fondateur d'une autre rationalité qui est celle de la rationalité économique, et donc il faudrait réussir à mettre tout ça en adéquation en fait.
C'est bien compris. Merci Jules Hermelin, donc éleveur dans le Finistère et par ailleurs docteur en anthropologie, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Dans un contexte international contrasté, les gardiens de l'euro ont jugé inutile hier tout mouvement immédiat sur le loyer de l'argent.
Oui, en d'autres termes, avec une dynamique des prix plus équilibrée et puis une économie peu ou prou résiliente, la Banque Centrale Européenne a choisi de laisser ses taux inchangés. À l'inverse, la Banque d'Angleterre a décidé pour sa part de réduire son taux directeur d'un quart de point de pourcentage. Quant à la Banque du Japon, elle a procédé au contraire à son premier tour de vis monétaire depuis janvier en relevant ce matin son taux directeur à 0,75%, soit son plus haut niveau depuis 1995.
Et direction à présent les États-Unis pour l'un des grands rendez-vous de l'année de la droite conservatrice.
Depuis hier, l'organisation Turning Points, mouvement créé par l'influenceur Charlie Kirk, assassiné en septembre dernier, tient sa conférence annuelle à Phoenix dans l'Arizona à l'occasion de constater dans les allées de l'America Fest combien les querelles intestines parcourent aujourd'hui en réalité le mouvement conservateur. C'est un reportage signé Franck Madvon.
Dans cette immense foire de la droite américaine où l'on peut à la fois prier, rencontrer ses héros conservateurs et même acheter du déodorant pour les hommes, les vrais, personne n'ignore les fractures qui traversent aujourd'hui le mouvement. Peter vient de l'Idaho.
Il faut être aveugle pour ne pas voir ces divisions. Charlie Kirk à Turning Point était là pour pallier les divisions. Il tentait d'unir les différentes factions et il réussissait. Il était peut-être le seul à pouvoir rassembler tout le monde.
En ouvrant hier l'America Fest, sa veuve Erika Kirk a insisté sur les querelles intestines après l'assassinat de son mari. Israël est un des sujets de division. Jonathan distribue des t-shirts avec l'inscription « Jésus est juif ». Au sein du mouvement conservateur, les critiques visant Israël, voire l'antisémitisme, ne cessent de monter.
Je n'ai jamais rien vu de tel. Il y a toujours eu un fort soutien à Israël et au peuple juif dans le monde évangélique. Et ça a changé très vite. Je garde l'espoir que ça changera à nouveau.
Autre querelle, MAGA contre America First. Beaucoup d'électeurs de Trump lui reprochent aujourd'hui de ne pas placer l'Amérique en tête de ses priorités. Trop de temps passé sur l'international, pas assez par exemple à rétablir le pouvoir d'achat. Luna est étudiante en Californie.
Make America Great Again, ça n'est pas que Trump. Ça lui est associé, il l'a lancé, il peut en parler. Mais ça nous appartient. Avant qu'il soit en fonction, on y travaillait déjà.
Un monde conservateur divisé, donc, qui discute déjà de l'après-Trump.
Un reportage à Phoenix signé Franck Madevon. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, le plus souvent couvert et humide. Seul le nord-ouest devrait profiter de quelques éclaircies. Les températures, elles seront comprises entre 9 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Antoine Boucher à 18h. Vous avez rendez-vous avec Faouzi Tritin pour le prochain journal de la rédaction.